VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Le pape François vient de commencer ce vendredi au Caire une visite de 2 jours en Égypte. 3 semaines après 2 attentats meurtriers contre des cyclistes coptes qui ont fait 45 morts le 29 avril. Des attentats revendiqués par le groupe djihadiste État islamique. Le souverain pontife doit rencontrer aujourd'hui le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le grand imam sunnite de l'université d'Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, et le pape copte orthodoxe égyptien Tawadros II. L'occasion pour le pape François de prôner la tolérance et la coexistence pacifique. Gabi Dorsil.
C'est une période dure pour la communauté chrétienne. Ses responsables parlent de crise existentielle face à la recrudescence des attaques du groupe État islamique. Plus de 70 membres de la communauté copte ont trouvé la mort récemment dans des attaques commanditées par le groupe djihadiste et les militants ont promis de nouveaux attentats. Une double explosion le jour de Pâques a fait 45 morts. Avant la Noël 2016, une attaque suicide avait fait 28 morts dans la cathédrale principale du pays. Une campagne de terreur dans le nord du Sinaï a contraint nombre d'Égyptiens à la fuite en février et en mars dernier. Le pape arrive au Caire avec pour mission de renforcer les liens du Vatican avec les dirigeants musulmans en colère suite aux critiques de son prédécesseur, le pape Benoît XVI, relatives au traitement des fidèles chrétiens. Le dialogue est d'ailleurs rompu depuis 2011. Les coptes représentent environ 10% de la population égyptienne et ils craignent de subir le même sort que leurs frères et sœurs d'Irak et de Syrie, cibles répétées de Daesh. Le message de paix et de tolérance du pape François devrait résonner favorablement auprès du gouvernement égyptien et du grand imam Ahmed al-Tayeb, un modéré qui a déjà condamné l'extrémisme et le sectarisme.
Burkina Faso, les 2 fonctionnaires burkinabés enlevés par des hommes armés jeudi à Inabao, dans le nord du pays, à la frontière avec le Mali, ont été libérés dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ce qu'a affirmé une source sécuritaire à l'AFP en précisant que les 2 agents pris en otage ont été retrouvés en liberté sains et saufs. Les 2 hommes ont été relâchés à quelques kilomètres de la frontière malienne, mais leur véhicule de type tout-terrain a été emporté, a souligné cette source proche du ministère de la Sécurité. Les 2 ex-captifs, un agent de la direction de l'eau et de l'assainissement et le représentant de cette direction auprès de la mairie de Tin Akof avaient été kidnappés après l'attaque de leur équipe. Les 2 autres membres du groupe avaient été laissés libres. Impossible de savoir pour le moment s'il s'agissait d'un simple vol de voiture ou d'une attaque menée par des djihadistes, comme l'avaient craint au début plusieurs sources sécuritaires. Au Nigeria, 5 soldats nigériens tués et 40 blessés dans un attentat suicide mené par un combattant du groupe djihadiste de Boko Haram contre un convoi militaire dans le nord-est du pays. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP des sources militaires. Le kamikaze qui appartiendrait à la faction d'Abu Moussab al-Barnawi de Boko Haram a attaqué jeudi ce convoi qui menait des opérations de nettoyage entre les états de Yobe et Borno, d'après 2 officiers qui ont requis l'anonymat. La faction rivale d'Aboubakar Shekau mène surtout des attaques contre les civils, tandis que celle d'Al-Barnawi vise plutôt les militaires. Au Tchad, le parquet a requis 5 ans de prison ferme contre 2 militants de la société civile et la relaxe pour un 3e lors d'un procès hier à N'Djamena. Ils avaient été arrêtés début avril et le verdict est attendu dans 1 semaine. Abdourahmane Dia.
Nadjo Kaina et Bertrand Solo sont membres de la campagne internationale Tournons la page et du mouvement citoyen tchadien IINA qui signifie « on est fatigué ». Ils ont été arrêtés les 6 et 15 avril, détenus sans charge puis inculpés mercredi de troubles à l'ordre public et incitation à la révolte. Quant à Nelly Versinis, président du comité tchadien contre la vie chère, il avait été interpellé le 12 avril avant d'être inculpé d'usurpation des titres et escroquerie. Les associations de défense des droits humains réclament leur libération, estimant que leur procès est une intimidation claire, avec comme objectif d'instaurer la peur et de dissuader toute expression libre. Ces arrestations sont intervenues quelques jours après que l'organisation Tournons la page a appelé la population à exprimer son mécontentement face à la situation politique et économique. Le collectif contre la vie chère avait aussi demandé aux commerçants d'aller en grève contre l'augmentation des frais de stand. Le Tchad, pays producteur de pétrole, est en proie à une crise économique et sociale accentuée par l'effondrement des cours du brut.
Et toujours concernant le Tchad, la Cour d'appel des chambres africaines extraordinaires à Dakar au Sénégal a confirmé la peine de prison à perpétuité à l'encontre de l'ex-président tchadien Hissène Habré pour des crimes commis de 1982 à 1990. L'avocat américain Reed Brody, qui s'est battu pendant des années aux côtés des victimes du régime Habré, se félicite de la fin de l'ère de l'impunité pour les plus forts. On l'écoute.
Le message, c'est que, au pire, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde, que s'ils commettent des atrocités, ils ne seront jamais hors de portée de leurs victimes. Je pense que les jours où les tyrans pouvaient brutaliser leur peuple, piller le trésor de leur pays et s'installer avec leur compte en banque ailleurs, ces jours-là touchent à leur fin.
Reed Brody, un avocat américain qui fait campagne contre l'impunité en Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre Boko Haram au Sahel, dans le quotidien des réfugiés de la communauté haute du lac Tchad, après l'arrivée de milliers de personnes qui ont fui les attaques des militants du groupe djihadiste, la survie est le maître mot, nous dit Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad. Nicolas Pinault a rencontré ces réfugiés et déplacé son reportage.
À quelques kilomètres avant d'arriver à Bagassola, le camp de Dar es-Salaam, le drapeau tchadien flotte au-dessus des 8500 Nigérians qui y ont trouvé refuge. Tous, ou presque, racontent la même histoire, les attaques des djihadistes en pleine nuit, des villages brûlés, des vies arrachées. Eli Wakassou est originaire de Koukawa, dans l'état de Borno.
Environ des 24 heures comme ça du matin, la Boko Haram a attaqué leur village. C'est ce qu'on a entre deux filles. J'ai venu avec, ici avec mon enfant. Il y a jeune, 5 enfants et 2 femmes. Et mon père avec mon petit frère, tous, ils sont sortis par Medjugorje. Moi, j'ai venu ici au Tchad. Il y a mon grand-fils même, on l'a tué à cette attaque-là. On a brûlé, les Boko Haram a brûlé tout le village qu'on est dedans.
Dans ce camp, l'aide humanitaire arrive, mais les réfugiés estiment que ce n'est pas assez. Beaucoup n'attendent qu'une chose, traverser la frontière dans le sens inverse et retrouver le Nigeria. C'est l'avis de Kaka Aboubakar. Cette femme est originaire du village de Baga.
Avant, au Nigeria, on faisait du commerce, on pouvait manger et boire comme on voulait. Mais ici, on n'a rien, on ne fait rien. On nous distribue seulement des vivres, mais ce n'est pas assez chaque mois. S'il y a la paix, même demain, on rentre chez nous au Nigeria.
Du côté des autorités tchadiennes, on demande aux agences humanitaires d'aider les réfugiés et les déplacés à faire de l'élevage ou de l'agriculture pour subvenir à leurs besoins et ne pas dépendre que de l'aide humanitaire. Dimoya Swapebe est le préfet du département de Kaya, région du lac.
Il est question de dire à nos partenaires humanitaires, est-ce qu'il faut continuer à garder ces gens comme ça, attendre à ce qu'on leur apporte à manger? Nous disons non. Ce que nous demandons maintenant, c'est de faire en sorte que des activités de résilience puissent être prospérées au profit de ces populations. C'est à travers cela que cette population pourra se sentir à l'aise.
Au camp, Joseph Koda, l'entraîneur de l'équipe de football, surveille les enfants de Dar es-Salaam tapés dans le ballon pour se changer les idées et oublier un peu leur situation.
Le travail que je fais avec les enfants, c'est de leur faire oublier un peu ce qu'ils vivent. Avec le ballon, l'enfant s'amuse et ne pense pas à la vie au camp. Ça leur change les idées et à moi aussi.
À Dar es-Salaam, les réfugiés espèrent que les opérations de la force multinationale menées contre Boko Haram dans les îles du lac Tchad leur permettront de rentrer bientôt chez eux. Depuis Bagassola au Tchad, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Au Cameroun, le procès de 27 personnes, dont 3 leaders camerounais de la contestation anglophone accusés d'actes de terrorisme, a été renvoyé au 24 mai après que la défense a demandé jeudi la mise en liberté provisoire des accusés. Au total, 74 personnes sont poursuivies dans le cadre de la crise anglophone, notamment pour terrorisme, dans 19 procédures distinctes. Et l'instruction des dossiers d'une dizaine d'autres personnes se poursuit selon la défense. Et pour terminer, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé un vote qui était prévu jeudi sur une résolution à propos du conflit au Sahara occidental. D'après l'AFP, le projet de résolution fait pression sur le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui, pour qu'il retire immédiatement ses combattants de la région tampon de Guerguerat, près de la frontière de la Mauritanie, après le retrait des troupes marocaines de ce secteur en février. Plus d'infos sur notre site internet. internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.